Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale, il est 20h30 à Goma, 2h de moins en temps universel.
Afrique Soir.
À 19h30 ici à Paris, l'heure d'Afrique Soir avec vous Sylvie Berruet.
Bonsoir Simon, bonsoir à tous. À la une, la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon les Nations Unies, au moins 700 personnes ont été tuées, 2800 blessées lors des combats pour le contrôle de Goma depuis dimanche. Un bilan qui devrait s'alourdir selon Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Et puis diplomatie, tous azimuts autour de cette crise dans l'est de la RDC. Le sommet extraordinaire des pays de la SADC est réuni à Harare au Zimbabwe pour évoquer la situation au Nord Kivu et au Sud Kivu. C'est une page qui se tourne et la fin de la présence française au Sahel, une cérémonie officielle au Tchad des autorités pour marquer le départ des forces françaises du pays. Est-ce la fin définitive de la coopération militaire entre la France et le Tchad? Ce sera le dossier d'Afrique Soir. Et puis le soulagement à Madagascar, 400 pêcheurs qui étaient portés disparus ont été retrouvés sains et saufs. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu a pris officiellement ses fonctions. Aujourd'hui, le général-major Évariste Kakule Somo s'est installé dans la ville de Beni, c'est au nord de la province. 3 jours après sa nomination par le chef de l'État, Paulina Zidi, vous êtes en ligne de Kinshasa. Bonsoir Paulina.
Bonsoir.
Il a annoncé que Beni devenait temporairement le chef-lieu du Nord Kivu en raison de la présence à Goma du M23 et des militaires rwandais.
Oui, la cérémonie s'est en effet déroulée dans la cour de la mairie de Beni, où viennent d'emménager les nouvelles autorités du Nord Kivu, à plus de 250 kilomètres à vol d'oiseau de Goma, une situation que le général-major Évariste Kakule Somo n'a pas éludée dans son discours. « Mon bureau se trouve à Goma, je vais m'y installer le plus tôt possible », a-t-il prévenu. Dans sa déclaration, il a rendu hommage aux victimes tombées pour la patrie ces derniers jours dans les combats, les civils, les militaires, mais aussi les oiseaux. Zalendo, ses groupes d'autodéfense alliés de Kinshasa. Il a aussi évoqué son prédécesseur mort, les armes à la main sur la ligne de front entre Goma et Sake la semaine dernière. Enfin, le nouvel homme fort du Nord Kivu a tenu à rappeler sa mission, reconquérir et restaurer l'autorité de l'État dans ces zones soumises aujourd'hui à un régime barbare de terreur et de non-État. Fin de citation.
Paulina Zidi, en direct de Kinshasa. La diplomatie se déploie, je vous le disais dans les titres, un sommet extraordinaire de la SADC se tient en ce moment à Harare, au Zimbabwe, pour discuter de la crise, bien sûr, dans l'est du pays. Le président Félix Tshisekedi y participe, non pas en présentiel, mais par visioconférence. Alexandra Bronjon, vous êtes à Kinshasa. Alexandra, les leaders de la région devaient discuter de la situation dans l'est du pays, bien sûr, ainsi que de l'avenir des troupes de la SADC.
Oui, tout à fait. Les dirigeants de la SADC sont actuellement réunis à huis clos. Les discussions doivent notamment porter sur l'avenir de la mission de la SADC en RDC, la SAMI-DRC, déployée pour appuyer les forces armées congolaises dans l'est du pays. Alors, faut-il retirer cette force de plusieurs milliers d'hommes, la renforcer? Les membres de la SADC sont partagés sur le sujet, notamment l'Afrique du Sud, le plus gros contributeur de soldats sur le terrain, qui a perdu 13 hommes ces derniers jours dans les combats contre les rebelles du M23 autour de Goma. Le Malawi a également perdu 3 soldats. Selon la presse sud-africaine, Pretoria pousserait pour un cessez-le-feu suivi d'un retrait progressif de cette force de la SADC. Rappelons que des tensions ont éclaté cette semaine entre Pretoria et Kigali, le président rwandais accusant la mission de la SADC de ne pas être une force de maintien de la paix. Côté congolais, on indique que le président Félix Tshisekedi a prévu d'exposer la situation humanitaire dite catastrophique sur le terrain, les dizaines de milliers de déplacés, les corps dans les rues de Goma, le manque de nourriture dans la capitale du Nord Kivu. Selon une source proche de la présidence congolaise, Kinshasa souhaite que la SADC condamne la présence des troupes rwandaises sur le terrain et exige du Rwanda qu'il retire ses militaires du territoire congolais.
Merci Alexandra. Bonjour, nous irons à Goma dans quelques instants. Restons encore au plan diplomatique puisque le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lui est au Rwanda, le chef de la diplomatie française, à Kigali depuis hier, après une première étape en RDC. Il a rencontré ce matin le président Paul Kagame. Amélie Tulé.
Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de l'entretien. Seuls éléments de langage de la diplomatie française, cet échange s'inscrit en soutien des processus de médiation de Luanda et Nairobi. À Paris, l'Élysée dit suivre avec une extrême attention l'offensive du M23 avec l'appui des forces rwandaises qui se poursuit plus au sud, dans le sud Kivu. Emmanuel Macron multiplie les échanges téléphoniques avec les chefs d'État du continent. Hier soir à nouveau avec le président congolais Félix Tshisekedi. Il reste aussi en lien avec le président Kagame, assure-t-on à l'Élysée. Le président français avait aussi déjà parlé à ses homologues du Kenya, de l'Afrique du Sud et du Congo-Brazzaville. Il a depuis également appelé l'Angolais João Lourenço, le Burundais Evariste Ndayishimiye et l'Ouganda Yoweri Museveni. L'Élysée assure qu'il y a un consensus sur la nécessité de parvenir à faire cesser les hostilités préalables à toute reprise du dialogue. Et au niveau des instances internationales, l'Élysée parle d'une convergence pour hausser le ton et les pressions sur le M23, le Rwanda et aussi, je cite, les acteurs congolais qui sont dans une logique de prise du pouvoir. Une référence aux propos tenus hier par le leader de la coalition dont fait partie le M23. Une logique que nous ne pouvons pas accepter, dit l'Élysée.
Amélie Tulé. Et puis, selon les Nations Unies, au moins 700 personnes ont été tuées à Goma. Il y a également 2800 blessés depuis dimanche lors des combats pour le contrôle de cette ville. Donc, depuis quelques jours, un bilan qui devrait s'alourdir, selon Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Donc, ces chiffres ont été établis, j'ajoute, par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et ses partenaires avec le gouvernement. Donc, une évaluation donc estimée depuis le dimanche dernier et hier, donc un bilan annoncé ce soir, toujours provisoire par Stéphane Dujarric. Alors la situation à Goma, on y vient puisque beaucoup d'habitants qui étaient errés chez eux ont commencé à sortir et ils tentent de retrouver malgré tout un semblant de normalité. Chose vue et entendue dans cette ville de l'Est de la RDC depuis l'offensive éclair du M23 appuyée par le Rwanda avec Amira Souilem.
Malgré une situation encore instable, ce chauffeur de moto-taxi de Goma a repris le chemin du travail. Mais les clients, eux, ne sont pas forcément au rendez-vous.
Ça se calme un peu, mais certaines personnes ont encore peur. C'est un calme précaire. Les clients sont moins nombreux parce qu'ils n'ont pas d'argent, et nous non plus d'ailleurs. On arrive tout juste à gagner de quoi nourrir la famille chaque jour.
Les combattants du M23 restent visibles dans la ville. Les habitants ont profité de la calmie pour sortir. Prendre des nouvelles d'un proche, faire quelques courses.
On n'a pas d'eau chez nous à cause des combats. Il n'y a pas d'eau à boire, pas d'eau pour préparer la nourriture, pour faire la lessive. C'est compliqué. Comme il faut laver les vêtements, nous sommes venus ici au lac. C'est la première fois que je sors et je l'ai fait en ayant peur.
Signe que la vie reprenait malgré tout, tout doucement, certaines lignes de transport avaient repris leur trafic.
Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, il est 18h passé de 38 minutes en temps universel.
N'Djamena, 100.2 FM.
Direction le Tchad où une cérémonie a célébré ce matin la fin de la présence militaire française dans le pays. Deux mois après la rupture des accords de défense, elle était organisée sur la piste de l'aéroport de la base d'Hadji Kossé. C'est là d'où est parti hier le dernier avion français. Cérémonie en présence du président tchadien Mahamat Idriss Déby, de représentants de toute la classe politique et enfin du corps diplomatique. C'est un reportage de Victor Moria.
Tout au long de son discours, le chef de l'État tchadien a mis l'accent sur la souveraineté, désormais, dit-il, pleinement retrouvée de son pays.
La souveraineté n'a jamais été un cadeau. Elle est une conquête, le fruit de luttes, de sacrifices et d'un engagement constant. Nos ancêtres ont combattu pour nous offrir cette liberté, pour que nous puissions vivre dans une nation indépendante, fière et respectée.
Face à l'ensemble des hauts personnages de l'État, des institutions régaliennes aux membres du Conseil national de transition, Mahamat Idriss Déby assure que le Tchad restera ouvert au dialogue avec la France.
En reprenant le contrôle total de toutes les bases militaires françaises établies dans notre pays, nous ne rompons pas nos relations avec la France, mais nous mettons un terme à la dimension militaire de cette coopération.
Comme un symbole de l'unité nationale voulu par les autorités pour l'occasion, les deux leaders de l'opposition, Albert Pahimi Padaké et Succès Masra, ont assisté à la cérémonie. Victor Morian Jamena, RFI.
Alors le départ de l'armée française met-il un point final à la coopération militaire entre la France et le Tchad? Nicolas Sûr, dans Afrique Midi, a posé la question à Charles Bouessel, analyste à l'International Crisis Group, en charge de la Centrafrique et du Tchad.
Alors la coopération militaire, on peut dire que pour l'instant, à ce stade, oui, elle est terminée, mais il ne s'agit pas d'un divorce violent comme ceux qui ont pu intervenir entre la France et les pays de l'AES, par exemple. Mais c'est quand même, oui, comme vous le dites, une page de l'histoire qui se tourne. Et il faut ajouter que les récentes déclarations du président Macron, le président français, avait notamment dit que les dirigeants sahéliens avaient oublié de lui dire merci pour les interventions militaires françaises au Sahel. Le Tchad, comme d'autres pays de la région, ont sans doute perçu ces déclarations comme méprisantes, à rebours de ce qui était attendu de la France, c'est-à-dire qu'elle se comporte comme un partenaire normal.
C'est-à-dire que la coopération militaire est momentanément terminée, mais elle pourrait reprendre, selon vous?
La possibilité de nouvelles coopérations militaires semble peu probable dans un futur proche, parce que le président tchadien a fait du départ des forces françaises un point fort de sa gouvernance. Et cette mesure a été très populaire et il est probable que le président tchadien continue de vanter cette mesure. Pour le reste, par contre, la France développe toujours une aide publique au développement. La coopération économique et la coopération culturelle sont maintenues, donc il ne s'agit pas d'un divorce total avec le Tchad.
Des drones turcs achetés par le Tchad vont s'installer sur la base de Faya-Largeau. Apprend-on dans quel objectif, selon vous?
Eh bien, c'est peut-être un début de remplacement des accords de défense avec la France. Parce que les accords de défense avec la France s'incarnaient beaucoup dans la couverture aérienne de la France au Tchad, donc notamment avec les avions de chasse français et les drones. Et on voit donc avec le partenariat avec la Turquie le développement des drones turcs au Tchad qui ont sans doute l'ambition de remplacer en partie la couverture aérienne qu'assurait la France au Tchad, même si la puissance de feu d'un avion de chasse est bien supérieure à celle d'un drone. Un avion de chasse peut frapper plusieurs fois, il peut frapper des cibles en mouvement et l'avion a un aspect dissuasif que n'a pas forcément le drone.
Est-ce que le Tchad envisage d'autres partenariats militaires?
Le Tchad développe plusieurs partenariats, donc avec, comme on l'a dit, la Turquie, la Hongrie, mais aussi les Émirats arabes unis. Donc c'est sans doute un des partenariats les plus significatifs, notamment en termes financiers, avec donc des prêts très importants, mais également une coopération économique et une livraison de matériel militaire. Ce qu'on peut dire, c'est que le Tchad semble ouvert à tous les partenariats pour l'instant, même si on peine à voir se décider une stratégie claire derrière.
Des propos recueillis par Nicolas Sûr dans Afrique Midi. En bref, au Sénégal, les familles de 79 personnes mortes au cours des manifestations qui ont secoué le pays entre février 2021 et 2024 vont bénéficier de 10 millions de francs CFA d'assistance chacune. C'est une annonce de la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Diaye, ce vendredi. Et puis 2172 ex-détenus sous Macky Sall et recensés par l'Agence nationale des statistiques percevront, eux, une allocation de 500 000 francs CFA chacun. Le géant du négoce suisse Trafigura, condamné pour corruption, l'ex numéro 2 de la firme Michael Wainwright, écope lui d'une peine de prison ferme. Jusqu'à présent, Trafigura avait échappé au procès en plaidant coupable pour corruption au Brésil et aux États-Unis. Et ce vendredi, le tribunal suisse a délivré un verdict bien différent. Alexis Bédu.
Tous coupables, les procureurs de la plus haute instance judiciaire suisse ont tranché. D'après eux, 5 millions de dollars de pots de vin ont été versés à Paolo Gouveia, un officiel angolais, en échange de contrats pétroliers. Trafigura est condamné à payer une amende de plus de 3 millions de dollars et à 146 millions de dollars d'indemnisation. Cela correspond au profit généré par les 9 contrats d'affrètement et de soutage litigieux obtenus entre 2009 et 2011. Mais surtout, le Britannique Mike Wainwright, ancien directeur des opérations de Trafigura, Figura, a été condamné à 1 an de prison ferme, 36 mois dont 14 fermes pour Paulo Gouveia. Il s'agit d'un signal fort selon le procureur général suisse, une première historique pour l'ONG Public Eye. C'est la première fois qu'un dirigeant d'une maison de négoce est condamné à de la prison ferme. Jusqu'à présent, en Suisse, seuls les intermédiaires ayant œuvré dans ces affaires de corruption impliquant des grandes sociétés de négoce étaient condamnés. L'avocat de Mike Rainwright annonce d'ores et déjà qu'il va faire appel.
En bref, les Sud-Africains renouent avec les coupures de courant ce week-end. Selon le ministre de l'Énergie, la coupure pourrait même durer jusqu'à dimanche. Le niveau de production de la compagnie nationale étant faible et des réparations sont en cours.
Libreville, 104 FM.
La cacophonie politique au Gabon. Le Parti démocratique gabonais, le PDG, parti d'Ali Bongo, est désormais divisé. Hier, le premier groupe qui avait destitué Ali Bongo de la présidence du parti a organisé un congrès. Il a désigné Blaise Louambé comme nouveau chef de cette formation. Mais ce vendredi, réaction des protestataires qui ont décidé de créer un directoire provisoire. À Libreville, Yves-Laurent Goma.
Vêtu d'un boubou frappé des réfugiés d'Omar Bongo, le président fondateur du Parti démocratique gabonais il y a 57 ans, les 4 militants chantent l'hymne du parti dans la joie. Ils bouclent ainsi le congrès extraordinaire qui a officiellement mis fin au long règne des Bongo père et fils à la tête du parti. C'est sans compter avec la ténacité d'une partie des cadres qui se disent être des légalistes. Ali Akbar Onanga Yobege, ancien ministre et membre du bureau politique, ne reconnaît pas ce congrès. Avec d'autres cadres, il a décidé de mettre en place un directoire de redressement du parti.
Nous avons décidé ce jour de constituer un directoire provisoire de redressement pour le retour à la légalité statutaire de l'organisation et du fonctionnement du parti pour mettre un terme à cette crise et rétablir l'ordre.
Et le nouveau président du PDG, Blaise Louambé, appelle au dialogue et reste ferme.
Nous ne pouvons pas faire de la politique spectacle. Le parti est organisé, on prendra les dispositions nécessaires pour pouvoir arrêter le désordre, arrêter la cacophonie.
57 ans après sa création, c'est pour la première fois que cet ancien parti État connaît une scission. Une division qui intervient à quelques semaines de l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Le soulagement à Madagascar, dans l'extrême sud de la grande île, alors que les autorités redoutaient des centaines de morts après que des pirogues aient pris la mer dans des conditions météo extrêmement difficiles en début de semaine. Hier soir, des centaines de pêcheurs étaient toujours portés disparus, mais après plusieurs jours d'angoisse, finalement, le ministre de la Pêche a confirmé cette bonne nouvelle. En fin de journée, tous ont été retrouvés sains et saufs. Le récit de Guillaume Fabry.
Plus aucune pirogue n'est perdue en mer, indique ce soir le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Mahatante. Au total, 424 pêcheurs ont été retrouvés en bonne santé. La plupart d'entre eux avaient pris la mer mardi depuis les côtes de la région de Langerouille. Ils se sont perdus avant d'échouer parfois à plusieurs dizaines de kilomètres de leur point de départ. Une enquête minutieuse, réalisée dans près de 200 localités, a permis à la fois de recenser les disparus auprès des familles et de retrouver les pêcheurs perdus loin de leur village. En début de semaine, les vents violents et la forte houle avaient conduit Météo Madagascar à déclencher une alerte rouge dans les 3 régions de l'extrême sud de la grande île, Langerouille, Latsimo-Angrefan et Lanos. Autrement dit, il était fortement déconseillé de prendre la mer. Tous les signaux étaient au rouge selon le ministre de la Pêche, mais les pêcheurs sont quand même partis à cause de la faim, a-t-il expliqué. Jamais des disparitions en mer d'une telle ampleur n'avaient été recensées dans cette région, selon un responsable de la société civile locale. Yann Fabrion, Tananarive, RFI.
Le sport et le football féminin, reconstruire une équipe féminine compétitive, voilà l'ambition du Tchad. Et c'est dans cette perspective que le tournoi Challenge pour la refondation du foot féminin se tient à N'Djamena depuis le 28 janvier. Et il y a urgence, hein, car à la mi-février, les Tchadiennes doivent affronter les Sénégalaises dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la CAN 2026. Nesta Yamgoto.
On veut à ce que chaque année, ils organisent cette compétition pour que nous, on développe nos talents. Quoi.
Un football féminin tchadien à reconstruire, comme le souligne la capitaine de l'équipe de la ville de Sar. Le dernier match de l'équipe nationale remonte à juillet 2023. Les Tchadiennes avaient été humiliées par l'Éthiopie 10-0 lors de leur double confrontation en éliminatoire de la CAN. Au pays, la Ligue de football féminin a repris avec Duclos cette année, après 5 ans d'impasse. redonner vie à cette discipline est l'objectif de ce tournoi actuel. Il doit se terminer lundi et permettra de détecter de nouveaux talents. Mais il faudra être patient, comme l'explique Dieudonné Ndiadoum, entraîneur de la sélection féminine de la province du Moyen-Chari.
Une, deux, parmi eux, peut-être seront sélectionnés. Voilà, c'est l'avantage. Sinon, là, le niveau, franchement, n'est pas top.
Élever le niveau moyen et bâtir une équipe nationale féminine digne de ce nom. Rancherie, le directeur technique national, Omar Yaya.
Tous les représentants des ligues sont là, les joueurs sont là. Donc, c'est au staff technique de faire la meilleure sélection possible.
Le temps passe. Le Tchad dispose de moins de 3 semaines avant d'affronter le Sénégal aux éliminatoires de la CAN 2026 au Maroc. Nestayam Goto, Djamena, RFI.
À suivre ce soir sur la radio du Monde, pourquoi RFI dit ça, l'émission de Juliette Rangeval. Nous parlerons du Soudan. RFI couvre-t-elle cette guerre de manière équilibrée? Coup de projecteur sur ce conflit oublié. C'est l'une des plus graves crises humanitaires de la planète aujourd'hui. Et on en parle avec Laurent Corot.
C'est vrai que nous avons plus de retours sur des exactions commises par les FSR du général Emeti et qu'on peut avoir l'impression d'un déséquilibre. Il y a de manière générale un biais au sein des intellectuels soudanais et de la communauté internationale concernant Emeti et ses hommes, qui est lié au fait que les FSR sont les successeurs directs d'Enjan Jawid.
Et pour autant, Laurent, est-ce qu'RFI passe sous silence les exactions de l'armée?
Alors, pas du tout. Il n'y a pas en fait de parti pris de RFI sur ce dossier.
Pourquoi RFI dit ça à 20h40 sur la radio du Monde? À suivre également Couleur Tropicale, le groupe togolais Toufan sera en concert au Zénith à Paris, ce sera le 18 avril. On va écouter justement Ziggy Pata. Togolais Toufan, donc en concert bientôt le 18 avril au Zénith à Paris, qui sera donc Couleur Tropicale. On va poursuivre en musique, on va partir en Afrique du Sud où la vague musicale de l'amapiano continue de se réinventer, d'évoluer. Récemment, c'est la religion qui semble inspirer ce mouvement, avec des paroles moins tournées vers l'argent, plus vers la foi et les prières. Et cette tendance puise ses sources dans la tradition gospel, une tradition bien ancrée en Afrique du Sud, même si jusqu'à présent les nombreuses congrégations et la musique urbaine s'observait de loin, Claire Bargelès.
Denga Takalani se définit comme un artiste chrétien. Et cette rencontre entre la religion et l'amapiano, il la connaît bien, puisqu'il a déjà sorti, sous son nom de scène King Day Music, plusieurs morceaux que l'on pourrait qualifier de gospel amapiano.
Lorsque l'amapiano a explosé, c'était une évidence pour moi qu'il fallait s'en servir comme d'un véhicule pour que la musique gospel progresse aussi. Car aujourd'hui, c'est ça que les jeunes écoutent en Afrique du Sud, et même dans le monde entier.
Cette tendance a aussi gagné en notoriété lorsque le tube Jerusalema a enflammé la planète sous forme de prière au moment du Covid. Pour Néo Molefe, observateur de l'évolution du genre amapiano au travers de sa plateforme Yanos Plug, cet alliage n'est pas vraiment une surprise étant donné la tradition de musique gospel en Afrique du Sud.
Si on se penche sur leur histoire, la plupart des chanteurs ont commencé à l'église et c'est à partir de ces chorales qu'ils ont été découverts. Je pense que c'est ça qui a poussé l'utilisation de paroles religieuses. religieuse sur ces rythmes modernes d'amapiano très inspirants.
Certains DJ n'hésitent pas désormais à incorporer dans leurs morceaux des extraits de chants gospel, comme ici Awesome God, des artistes Artwork Sounds et Bibar. Et Néo Molefe rappelle que cette fusion entre la religion et la musique urbaine est un mouvement qui dépasse l'Afrique du Sud.
Le Nigeria mène la danse avec des groupes comme Spirit of Prophecy ou l'artiste Choral. Ils sont beaucoup à se retourner vers ça.
Parmi les chansons spirituelles qui ont récemment marqué l'amapiano se trouve en tête de liste Imithandazo, soit prière en Zoulou, un titre signé Kabza de Small et Mthunzi et qui ne cesse d'être entendu lors de soirées sud-africaines depuis sa sortie en 2023. Il a même dépassé les 30 millions d'écoutes sur la plateforme Spotify.
Reportage de Claire Bargelès. Et puis c'est en playlist ce mois-ci. Toute la playlist d'RFI d'ailleurs c'est à découvrir sur RFI Musique. C'est le choix des programmateurs qui vous proposent pour conclure cette émission ce duo entre Amadeus Saliou Samb de son vrai nom avec Wally Balago Sek.
Boma bediul khalatu malabai Amalami sona tutu malambai oy Gany la takhul nga ba Togn la takhul nga may rechoy Salaw yan say nga mer Saman jambar ki yo mi lo ekoy Dotu ma wiri wiri jarindari li momom lay jele Dotu ma yon kenti sama waji man mi ma koy jeli dotuma wiri wiri jarindari limamom lay jeli tan sama waji dotuma yoni kenti sama waji man mi ma koy jeli kenti sama waji barama jo fadel fek ngaten jayoy bale kar gi rakhasina neke bobu dam ngay wajal
dunda mata ñaano ndate gende dafa koy ju ndax finaloma xewoli malay jox lepp lo ma ñaan dina la may
dotuma def nan luy metti sama ndaw si ndax sama ndaw le nga don leral sama yone dotuma nangu mi ndeb di ndax sama di gak yaw ndax yalla mo def ci ñun lo luy na ay way
gañ la taxul nga ba
ton la taxul nga may rekoy
Salaw yen say nga mer
sama nyambar yim la wekoy
dotuma wiri wiri jarindari li momom lay jele dotuma yoni kenti sama waji man mi ma koy jele
dotuma wiri wiri jarindari li momom lay jele
sama waji
dotuma yoni kenti sama waji man mi ma koy jele Gagne la ta khunga ba Don la ta khunga mi rechoy
À retrouver sur la playlist d'RFI que vous pouvez écouter sur RFI Musique. C'est ainsi que se termine cette première édition d'Afrique Soir. Merci à toute l'équipe, à la réalisation ce soir, Raphaël Lazizi. Excellente soirée à vous tous. À l'écoute d'elle, la radio du monde.
Jusqu'au 16 février prochain, votez pour l'un des 10 finalistes du prix Découverte RFI 2025. Le choix du public sera pris en compte lors du grand jury présidé par Angélique Kidjo qui proclamera le lauréat de cette année. Découvrez et écoutez les 10 candidats finalistes sur le site RFI.fr, sur nos réseaux sociaux et sur le site prixdécouverte.com jusqu'au 16 février. À vous de voter.